Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot.
Bonsoir à tous au cœur de la mêlée, le magazine quotidien de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Au sommaire aujourd'hui, le journal de la Coupe du Monde. Et oui, parce que vous le savez, mais la Coupe du Monde continue. Les demi-finales ont lieu ce vendredi et ce samedi. Bien sûr, on reviendra sur l'élimination des Français, les dernières infos qui les concernent. Et il y en a, bien sûr. Nos invités sont là, Eric Bonneval, Laurent Cardona, toute l'équipe Sud Radio. On recevra également un Sud-Africain qui est quasiment... français maintenant, c'est Sean Sowerby qui sera avec nous. Et puis, bien sûr, il y aura des cadeaux à gagner. On va en parler d'ici quelques secondes, mais il y aura aussi le fameux « Qui je suis ?». Voilà le jeu que tout le monde nous envie sur Sud Radio. Merci d'être au cœur de la mêlée. On se retrouve tout de suite, juste après le petit jingle.
Sud Radio, au cœur de la mêlée.
Au cœur de la mêlée, bonsoir à tous. Bonsoir Eric Bonneval.
Bonsoir, salut tout le monde.
Salut Lucien.
Bonsoir, ravi d'être avec vous.
Bonsoir Laurent Cardona.
Et salut, salut.
Bonsoir. Bon, alors on est à J+2, comment ça va Eric? Hier on parlait de gueule de bois, est-ce que t'as besoin de parler, est-ce que t'as besoin de te confier? T'es le bienvenu en tout cas sur l'antenne de Sud Radio.
On va en profiter alors. Ça va, j'ai eu de quoi expliquer, j'ai eu des appels de copains. C'est une défaite qui a... qui a marqué les gens.
Alors justement, tu vois, j'en parlais il y a quelques instants avec notre directeur d'antenne Frédéric Jouve. Moi je dis c'est un peu comme le Séville 82 du foot, je veux dire en termes de déception. Alors c'est pas, il n'y a pas la blessure grave de Batiston, etc., mais en termes, on va dire d'impact, de déception, moi depuis ce que je vois depuis dimanche minuit, et ça n'arrête pas, tout en vivant à Paris dans l'anonymat de la vie parisienne, je suis impressionné par la déception des gens. J'ai l'impression que c'est notre Séville 82.
Et tu as bien raison. Ouais. Alors, il n'y a pas eu tout ce qu'il y a eu autour du match de Séville. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment de tristesse, de frustration, de quelque chose qui s'est terminé alors qu'on a le sentiment que ça aurait pu aller au bout, plus loin, du moins. Et donc c'est vrai que on peut le qualifier de notre Séville et du rugby. C'est vrai.
Voilà. Alors je rappelle quand même pour les jeunes, parce que je suis quand même entouré de jeunes dans ce studio, Séville 82. Vous avez la référence ou pas les jeunes?
Daniel Herro nous appelle les petits frères de Sud Radio. Mais oui, effectivement. Mais d'ailleurs, on gagne 2 ans après l'Euro 84.
Voilà. Mais là, malheureusement, voilà, on sait qu'on va gagner le tournoi. Hein. Ça ne vous inquiétez pas. C'est signé. Voilà. On sait qu'on va gagner le tournoi. Laurent Cardona, tu l'as, toi, la référence Séville 82.
J'avais que 5 ans, donc en 82. Mais quand même, quand on aime le sport, on arrive à retrouver quand même, à suivre l'histoire
dans les archives de l'INA.
Voilà. Allez, on va enchaîner sur le journal de la Coupe du Monde. Avant cela, quand même, je voudrais vous inviter, vous les auditeurs de Sud Radio, à participer au tirage au sort, parce qu'on a un cadeau exceptionnel à vous faire gagner cette semaine. C'est le tirage au sort Rod & Gun, la célèbre marque casual chic néo-zélandaise qui s'associe à Sud Radio pour vous offrir un bon d'achat d'une valeur exceptionnelle. Ce sera tiré au sort, de valeur exceptionnelle de 300 €, et ça sera tiré au sort vendredi. Donc pour ça, voilà, il faut appeler dès maintenant, et puis vous serez dans un tirage au sort, et au 0826 300 300, bien évidemment. Moi je suis le monsieur jeu de cette Coupe du Monde, hein, c'est clair. Allez, c'est parti pour le journal de la Coupe du Monde.
Les fromages Matoc, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente
Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde.
Alors que le trois quarts de la France pense que la Coupe du Monde est terminée, Lucien Gasparac, lui, trouve des infos.
Oui.
Lucien. On commence avec l'arbitre. L'arbitre qui fait parler de lui, entre guillemets.
Déjà, oui. Déjà, on a débriefé sur lui hier. On aura peut-être l'occasion de redébriefer sur lui la semaine prochaine, puisqu'il sera au sifflet du match Angleterre-Afrique du Sud. Ce sera ce samedi. Donc, voilà, on aura l'occasion de débriefer avec Laurent Cardona de sa performance cette fois-ci. Et c'est Angus Gardner, l'arbitre australien, qui arbitrera Argentine-Nouvelle-Zélande. Donc, voilà, les Blacks qui sont d'ailleurs déjà à l'œuvre, hein, qui s'entraînent très très dur. On l'a vu aujourd'hui, puisque leur car n'arrivant pas à se déplacer, puisqu'un SUV bloquait le car.
C'était un gros SUV.
Ils se sont mis avec tout le pack pour le déplacer. Ils ont réussi, donc voilà, les Blacks sont en forme.
Voilà, et ça les faisait beaucoup rire, effectivement. Les Bleus qui avaient cette élimination n'ont pas touché de prime de victoire. Enfin, c'est normal, puis ils ont perdu.
Oui, voilà, ils ont perdu en quart. On remue le couteau dans la plaie. Et ils avaient prévu normalement une prime de 200 000 euros s'ils gagnaient la Coupe du Monde, mais ça n'a pas été le cas. Toutefois, ils toucheront quand même quelques deniers, puisqu'il y a une enveloppe de 1,1 million qui était prévue et qui vont devoir se partager de manière équitable. Et donc, ils se partageront l'enveloppe en fonction du temps de jeu de chacun. Par exemple, Damien Penaud et Louis Bielbiaré, qui ont beaucoup joué, auront le plus de cette prime. Et des joueurs comme Julien Marchand, Antoine Astoy, qui ont joué qu'un match, du coup, auront le moins. Voilà, c'est
en plus d'être triste, c'est bien. Romain Taofifénu et Winnie Taonio qui ne sont pas les seuls, qui ne sont pas les seuls à avoir annoncé leur retraite internationale. C'est les seuls en France.
Seuls en France, Keith Earls, l'Irlandais, a annoncé sa retraite sans une sélection pour le joueur irlandais, le joueur du Munster. Voilà, il accompagne dans sa retraite aussi Jonathan Sexton. Et un qu'on n'est pas prêt de revoir aussi, mais pas pour des raisons de retraite, c'est Joshua Tuisova, qui s'est blessé au genou et le Racing a communiqué. Apparemment, ce serait une lourde blessure pour le joueur. Donc, triste pour ce joueur qui enchaîne les coups du sort, décidément, en ce moment. Et un aussi qu'on ne reverra pas sur le circuit international, ce sera Simon Railawi, le sélectionneur des Fidji, qui ne prolonge pas à la tête de la sélection, malgré son très très beau parcours, son parcours historique, même en Coupe du Monde. Et un qui souhaite rester sélectionneur, c'est Eddie Jones. Il a affiché sa volonté dans la presse socialienne de rester en place.
Donc, à la tête de l'Australie.
Oui.
Voilà. Et puis du côté français, on est toujours, on le disait, c'est notre Séville 82. Mais même dans le staff, ils sont habitués quand même à ce type d'émotion. L'entraîneur de la défense, Sean Edwards, lui, il a pris la plume pour expliquer cette défaite.
Oui, il est anglais, Sean Edwards, et il a expliqué dans le Daily Mail cette défaite. Et on va vous en lire une partie. Il a dit: je ne peux toujours pas croire que nous avons perdu. Un instant, vous êtes dans votre camp d'entraînement, entouré par les médias, tout va à 1000 à l'heure, et l'instant d'après, vous êtes à la maison et c'est le silence. Je suis allé marcher le long de la plage pour retrouver mes esprits et j'avais juste ce sentiment de vide en moi. Je me suis levé lundi matin après seulement 2 heures de sommeil et j'ai pensé: est-ce que tout cela n'était pas qu'un cauchemar? Voilà, ce sont les mots de Sean Edwards.
Ouais, c'est les mots sur lesquels on va revenir dans un instant. Merci Lucien pour ce journal, mais on enchaîne bien sûr avec le débrief. Eric Bonneval, Laurent Cardona et vous les auditeurs au 0826 300 300. À tout de suite.
Avec Matoc, l'affineur des Pyrénées, plaquez tout pour goûter nos fromages. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présentes.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot.
Au cœur de la mêlée, le magazine rugby de Sud Radio, chaque jour à 20h, de 20h à 21h, vous êtes bien sûr les bienvenus. Eric Bonneval est avec nous, Laurent Cardona, ancien arbitre également. Et puis notre invité ce soir, il est sud-africain, mais son cœur est français, je suis sûr, surtout dans cette période. C'est Sean Sowerby qui est avec nous, ancien joueur du Stade français, du Stade toulousain, ancien entraîneur de Biarritz, mais également de Montpellier. Bonsoir Sean.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct. Alors, on va commencer par vous quand même, parce que vous êtes sud-africain, mais vous connaissez bien les deux pays. Comment vous l'avez vécu, ce match, et qu'est-ce que vous ressentez, vous, 2 jours après l'élimination des Français dans cette Coupe du Monde?
La première chose, c'était que ça a été un grand match. On a été gâtés la veille avec l'Irlande et Nouvelle-Zélande, un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis très longtemps. J'ai pas pensé que les deux équipes, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et les Français, auraient dû être aussi offensifs comme les premières 30 minutes qu'on a vécu. Mais c'était presque à l'auteur de le match de la veille. Et très peu d'écart. Malheureusement pour les Français, ils ont perdu. Je suis sud-africain, donc je suis un peu soulagé. Je suis content que l'Afrique du Sud a gagné. Mais il y a un sentiment, je partage la tristesse et la déception côté français, parce qu'il y avait vraiment, vraiment très peu qui séparait les deux équipes.
29-28 ans, on rappelle le score pour remuer un petit peu le couteau dans la plaie, mais selon vous, c'est le meilleur à gagner dimanche soir?
Je pense, si on prend les caractéristiques des deux équipes, l'équipe de France, comme l'Irlande, qu'ils ont aussi perdu, aurait pu mériter de passer. Ça se joue à très peu de choses, donc les marges sont très fins. Le banc sud-africain, le côté physique, les dernières 10-15 minutes, a fait la différence à peu près comme prévu. Voilà, je pense que la profondeur de le 23 côté sud-africain, l'expérience, le vécu collectif de ces événements a fait la différence à la fin.
Pas l'arbitre. On va en revenir.
Non, à mon avis, non.
D'accord, mais c'est intéressant. On va y revenir aussi. Éric Bonneval, on s'est pas parlé depuis dimanche soir, voilà. Est-ce que vous partagez le point de vue de Sean Sowerby? Est-ce que les meilleurs ont gagné? Est-ce qu'il nous a manqué un petit quart d'heure là pour aller au bout de l'exploit?
Il nous a manqué peut-être. Plus, je pense, tuer le match. Alors, il restait un peu à mi-temps, on doit concrétiser, parce que c'est vrai que c'est les meilleurs qui ont gagné. Hein. Ils ont gagné d'un point, donc c'est eux, c'est les Sudaf, mais sur cette première mi-temps, on marque tous les points, pratiquement. Les nôtres et les leurs. Ils marquent 14 ou 12 points, enfin deux essais. C'est deux cadeaux qu'on leur fait, donc avant de se plaindre de l'arbitre ou d'essayer de trouver. Et ça, c'est légitime quand vous perdez d'un point, il y a tellement de frustration qu'on relève les détails et les erreurs qu'il a commises, parce qu'il en a commis, mais il en a certainement commis des deux côtés. Mais pour la France, elles ont coûté un peu plus cher, puisque à la sortie, vous perdez d'un point. Mais il y avait moyen de faire mieux sur certains trucs, et à ce niveau de jeu, c'est tellement le haut niveau, et on est tellement proche que c'est le détail, et le détail il est tombé du bon côté pour les Sud-Africains.
Oui, Sean, vous qui étiez un excellent joueur sous les ballons, comment vous expliquez cette faillite des Français, surtout les ballons en l'air?
Donc la première chose à retenir, c'est que je suis pas sûr que l'Afrique du Sud a vu une faiblesse ou une fébrilité côté française. Je pense qu'ils ont surtout respecter la défense de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'on voit dans les premières 50 minutes, même s'il y avait le carton jaune à la fin de premier mi-temps, première dizaine, 9-10 minutes de la deuxième mi-temps, ils ont rarement fait deux ou trois passes, deux ou trois temps de jeu. C'était tout de suite, on va aller chercher au pied. C'est pas que stratégique, parce que tout le monde va parler de la stratégie et l'exécution et la précision du jeu au pied et le lutter rien. Mais je pense que d'abord, il y avait un respect côté français, c'est-à-dire que tenir le ballon, faire jouer contre l'équipe de France, il y a une sacrée défense qui nous met en difficulté, donc il faut mieux tenter, renverser la pression et tenter. Pour eux, ça a bien tombé, il y a un manque de maîtrise dans l'air. Sur les deux essais, on peut en parler de couverture derrière. Il y a l'essai turnover où il y a un bel essai, troisième essai de l'Afrique du Sud qui est plus dans le jeu. Mais les deux premiers, je pense qu'on peut questionner le positionnement des liés, le luthérien et peut-être le couverture derrière. Bravo Afrique du Sud. Pour moi, l'équipe de France aurait pu mieux faire. Je pense que ces deux essais plus ou moins soft, comme on dit, et c'est dommage parce que ça paye cash à la fin de la rencontre.
Voilà, un point d'écart, on le rappelle, et puis il y a quand même cette petite image de la transformation, Sean. Est-ce que vous pensez que c'est physiquement possible que Cheslin Kolbe puisse contrer 25 mètres après Thomas Ramos? Vous qui êtes un ancien Toulousain, ça m'intéresse.
Physiquement possible, j'en sais rien, je ne maîtrise pas tout ça, je pense que physiquement c'est peut-être possible, après si on a la vidéo, combien de fois ça nous arrive qu'on revient sur une décision, est-ce qu'on a la possibilité de l'arbitrage de revenir sur une décision, et c'est vrai à la fin, ces deux points coûtent très très cher, même si l'équipe de France avait les occasions avant et surtout après, de clôturer le match et de gagner ce match.
Ça, c'est, on est bien sûr d'accord avec ça, et il n'y a aucun problème. Laurent Cardona, est-ce que vous avez revu encore des images, peut-être qui circulent sur cette transformation? Parce qu'on a eu Johan Huger hier dans l'émission qui dit « Moi, j'ai joué 6 ans avec Cheslin, on montait quasiment au même moment, au même endroit, etc. Ce n'est pas possible, on va dire, physiquement. » Donc, est-ce que Thomas Ramos a bougé un petit peu, et c'est ça qui fait que sa course d'élan a été entamée? Est-ce que, Laurent, sur une des images peut-être qu'on a vues, des plans qui circulent sur les réseaux des spectateurs, est-ce que vous avez vu du nouveau?
Non, j'ai vu des dizaines d'images. Je me suis même procuré la rencontre avec tous les angles possibles imaginables que nous fournissent les logiciels comme Opta, par exemple. Et on peut regarder comme on veut, en long, en large et en travers. Chesil Kobi part avant. Et la transformation devait être retentée dans tous les cas. Il n'y a pas de discussion possible. Et physiquement, dans tous les cas, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire 25 mètres. Moi, il tapait le ballon à la place de Thomas Ramos tellement il était en avant.
Sean Sowerby.
Mon avis là-dessus, c'est que si le buteur est lent, c'est physiquement possible. Je ne vais pas décider que ça soit possible ou pas. Moi, je trouve intéressant le fait que derrière, toutes les équipes devraient tenter et qu'on retente la pénalité derrière ou la transformation derrière, et on peut surtout partager le buteur. Les règles font qu'on peut tenter, on peut pousser, l'arbitre se trompe ou l'arbitrage se trompe, on ne revient pas, et surtout il y a une deuxième tentative. Donc de toute façon, ça va perturber le buteur, et qu'est-ce que ça donnera après?
Moi, je suis d'accord avec Sean, il faut tenter et utiliser, les faiblesses de l'arbitrage qui peuvent exister. Je suis d'accord avec Sean, il faut tenter, mais on est dans un quart final de Coupe du Monde, on n'est pas dans une coupe chambourcée d'Anone au fin fond du quartier de je ne sais trop où. Il a raison Sean, il faut tenter, il faut jouer avec la règle, il faut tricher, et c'est comme
on joue avec les règles. Tenter oui, tricher non.
Est-ce que ça aurait pu occasionner un report de match?
Là il a triché.
Est-ce que Laurence aurait pu occasionner un report de match?
Non, il n'y a pas de jurisprudence sur une décision arbitrale. Non, là, on n'est pas du tout dans un match à rejouer ou quoi. Non, une décision arbitrale n'est absolument pas contestable et certainement pas après une rencontre. On peut contester une équipe qui a joué à 16 au lieu de jouer à 15 pendant 3 minutes, ça on peut, mais sinon, c'est pas possible. Ouais.
Revenons quand même sur la spécificité sud-africaine aussi avec vous, Sean Sowerby. Vous connaissez bien sans doute Rassie Erasmus, ou en tout cas de réputation. On a l'impression quand même qu'il est un peu entré dans la tête du corps arbitral. À force de mettre, ça fait des années qu'il met la pression via les réseaux sociaux, via les émissions sur la télévision sud-africaine, via des séquences qu'il envoie aux arbitres. Est-ce que ça a pu jouer, sans parler d'honnêteté ou de malhonnêteté, mais est-ce que psychologiquement, sur un jeune arbitre comme M. O'Keefe, est-ce que ça a pu jouer? Parce qu'on sait quand même qu'il est très très intrusif. Enfin, il y va, Rassie Erasmus.
C'est possible encore une fois. Je ne vais pas dire que c'est non. C'est possible, mais il faut peut-être plus demander à Laurent. Je vois mal un arbitre sur le terrain pris par un entraîneur ou un manager, une équipe en face et qui tremble parce qu'il y a cet effet-là. Ça, je vois mal. L'événement, à un certain moment, comme un joueur qui subit une pression sur le terrain à la 60e, 70e, c'est possible, mais ça je vois mal. Moi je pense que l'effet est plutôt positif. Les entraîneurs échangent avec l'arbitre avant match, pré-match, et je pense que l'impression est surtout sur le fait qu'on est bien préparé, on connaît notre jeu, on voit ce qu'on vise, et c'est plutôt ce côté-là positif et pas négatif. C'est-à-dire que moi, je subis une pression arbitre et il faut que je vais dans un sens ou l'autre. Moi, je vois mal ça. On critique souvent les arbitres, mais je pense qu'ils sont surtout juste réglo, préparés. Et l'effet, s'il y a un effet, c'est positif et pas négatif.
Complètement d'accord avec vous, Sean. Juste quand même, je vais un petit peu plus loin dans mon raisonnement avec Laurent Cardona. Monsieur O'Keefe a sifflé prématurément lors du match Irlande-Afrique du Sud, 13-8. Il y a un maul improductif. Il siffle une seconde trop tôt, ce qui enlève peut-être une balle de match pour l'Afrique du Sud. Alors, ce n'était qu'un match de poule, mais enfin, ça déterminait quand même l'ordre des quarts de finale, d'une certaine manière. Est-ce que, là, dans les dernières secondes, quand les Français sont un peu insistants, aux alentours des 40 mètres, il y a quand même des plongeons dans les rucks qui sont un petit peu suspects. Est-ce que là, ça a plané, peut-être, des propos d'Erasmus dans sa tête?
Bon, j'y crois pas. Franchement, je suis d'accord avec Sean. Nous, arbitres, on essaye d'être dans une bulle, d'être fermé à tout ce qui peut avoir comme pression extérieure. Je vais être sincère, l'enlever totalement de l'esprit quelque part dans l'esprit où ça traîne, c'est pas impossible, François. Mais de là être perturbé de la décision du premier match, etc., j'y crois pas. Même si Ben O'Keefe n'a que 34 ans, ce qui peut paraître jeune pour un arbitre de très haut niveau, il a quand même une expérience derrière lui qui valide sa présence dans cette Coupe du Monde et qui valide sa présence sur les quarts de finale.
Donc, je rappelle quand même que son arbitrage en finale du Super Rugby a suscité quand même quelques problèmes. Hein, ouais. Voilà, mais bon.
Non, voilà. J'y crois pas, François. Pour répondre à ta question, j'y crois pas.
Eric Bonneval, que Ben O'Keefe soit désigné arbitre de la demi-finale, Angleterre-Afrique du Sud, ça te semble comment?
Bah, ça me semble. C'est plus une erreur, je sais qu'il n'est pas un Français, moi surtout. On est en France, on n'a même pas d'arbitre français.
Il a été puni, Mathieu Rénal.
C'est ça qui me dérange.
Non, oui, je pense qu'il est gardé pour la finale, Mathieu Rénal.
Ah, ben j'espère, alors.
Il est gardé pour la finale si l'Angleterre est présente.
Ah, ok, ouais. J'espère pour lui, j'espère pour lui.
Sinon, ça va être
mal. C'est ce que je souhaite. Mais parce que, non, après, sur l'arbitre, je n'ai rien spécialement à dire, hein, c'est... le fait qu'il soit choisi pour les demi, bon, il fait partie du panel des meilleurs arbitres. Bon, mais tant mieux pour lui, hein, c'est pas...
D'accord. Ouais, ok, sans commentaire. Sean Sowerby, avant de vous libérer d'ici quelques secondes, une petite question quand même sur le 15 de France. Qu'est-ce que, avec vos yeux extérieurs, qu'est-ce que vous modifieriez, vous, voilà, pour que la France, dans 4 ans, puisse passer ce genre d'obstacles?
Pas grand-chose. Moi, je pense, voir le fait que ça croisait l'Afrique du Sud en quart final, il manquait surtout Julien Marchand. Mais je pense aussi Paul Willemse aurait dû plus faire bien. On parle d'Intermec et le fait que Dupont n'était pas sûr, mais le match, de toute façon, aurait dû jouer devant. Et Marchand, on l'a manqué, même si Movaka a fait un match excellent. Imaginons d'avoir Marchand pendant 40-50 et Movaka pendant 30. Quand Antonio part, quitte le terrain, il est remplacé avant le 60e, qui n'est pas de l'habitude de l'équipe de France. C'est à ce moment-là que ça a commencé à tourner. Et d'abord la mêlée, et puis dans les contacts, et des derniers. Pour moi, l'équipe de France, les premières 50, 55, même 60 minutes, était pas dominateur, mais devant. Et puis ça commence à tourner, ils n'ont pas pu retourner la tendance, c'est dommage. Qu'est-ce qui manque à l'équipe de France? Il y a une sacrée génération derrière, je ne parle pas des moins 20, moins 21, moins 22, moins 23 ans qui vont rentrer dans l'équipe nationale d'ici 1, 2 ou 3 ans, mais cette génération, surtout Toulousain, des grands joueurs à poste pilier gauche, talonneur, troisième ligne, demi-mêlée, 10 arrière, donc ça va bien servir. C'est surtout à ce niveau-là, je pense, un vécu collectif, un vécu de l'autre niveau, de quart final perdu ou gagné, demi-finale perdu ou gagné, derrière, qu'on puisse construire sur cette expérience. Ils l'ont. Dommage que ça se fait pas en France, mais pourquoi pas dans 4 ans en États-Unis.
On l'espère en tout cas. Merci Sean Sowerby. Vous êtes plus entraîneur de Biarritz, on est d'accord. Ça veut dire que vous allez rebondir autre part. C'est en cours.
Pas tout de suite. Plus entraîneur de BO, mais toujours entraîneur dans l'esprit. Et on verra ce que ça donne d'ici la saison prochaine.
Voilà, merci. Quadruple champion de France, on le rappelle, une fois avec le Stade français, 3 fois avec le Stade toulousain. Et on était très heureux de vous avoir avec nous en direct sur l'antenne de Sud Radio. C'était un plaisir, Sean, de vous avoir. À très bientôt sur notre antenne, sur Sud Radio, la radio du rugby. À tout de suite dans Au cœur de la mêlée. Et vous nous appelez bien sûr au 0826-300-300.
Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présentes.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot.
Avec vous, les passionnés de rugby, on est ensemble jusqu'à 21h dans Au cœur de la mêlée. 0826 300 300, vous êtes le bienvenu pour les bienvenus pour discuter avec Eric Bonneval, avec Laurent Cardona, ancien arbitre, Eric Bonneval, ancien international, l'un des pionniers de cette Coupe du Monde 87. Voilà, et puis bien sûr ancien joueur du Stade Toulousain, Lucien Gaspara, qui est là également. Et puis bon, on a parlé, on a fait le tour là sur Ben O'Keefe, c'est bon, on n'en parle plus. C'est un bon arbitre, il arbitrera la demi-finale et il le mérite. Et l'arbitrage et le rugby, c'est une longue histoire et c'est toujours très complexe, bien sûr, et on ne doute pas de l'honnêteté des arbitres. Retour quand même sur l'équipe de France, avec quand même, Eric, peut-être des nouvelles qui semblent intéressantes quand on lit que la Ligue nationale de rugby et la fédération sont toujours main dans la main. C'est en tout cas ce qu'on a lu au travers d'une interview entre le président Grill et le président Buscatel.
Mais tant mieux, ça veut dire qu'on va rester sur ce même rythme, ce même tempo pour que les joueurs soient à disposition de l'équipe de France, hein, parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup de concessions pour les clubs. Donc tant mieux si ça peut perdurer pour continuer à préparer au mieux. Alors bon, il reste 4 ans, hein, il y a 4 ans, il y aura des tournois entre-temps, il y aura des matchs internationaux et des Coupes d'Europe. Donc il y aura de quoi voir et de quoi sélectionner, mais c'est bien que la Ligue et la Fédé parlent d'une même voix.
Oui, bah, oui, vas-y Lucien.
Est-ce que cette Coupe du Monde n'a pas montré que le chantier c'était d'ailleurs c'est un chantier qui est depuis des années, hein, mais c'est trop de matchs en fait, parce qu'on a vu les joueurs qui avaient le plus joué, qui étaient ceux du Stade Toulousain et du Stade Rochelais, c'est ceux qui ont été le plus sujets à des blessures. Peut-être ça a été dur pour certains d'ici là, le quart de finale. Donc même s'ils marchent encore main dans la main, la Ligue et la Fédération, est-ce que là, cette Coupe du Monde n'a pas montré qu'il fallait vraiment se pencher sur ce sujet des matchs trop nombreux, des calendriers à rallonge? Voilà, on se rappelle, hein, ils ont fini le championnat le 17 juin, les finalistes, qui étaient la colonne vertébrale de l'équipe de France, hein, les finalistes, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, et ils ont enchaîné sur une préparation. On a vu beaucoup de blessures, hein. Julien Marchand, Jonathan Danty, Romain Tamac, donc même si les deux façades, ils ont l'air de très bien s'entendre, est-ce qu'il ne faudrait pas leur mettre la pression, entre guillemets, pour qu'ils vraiment s'occupent de ce sujet un jour?
Ben,
le serpent de mer.
Oui, c'est ouais, vraiment c'est le serpent de mer, mais là...
Ouais, mais il y a aussi des intérêts économiques, alors ça veut dire quoi, supprimer... des matchs de championnat, des matchs de Coupe d'Europe, mais derrière il y a des tribunes qui se remplissent, c'est aussi un problème, c'est compliqué, c'est très compliqué. Merci. Arriver à ce que les clubs ne fassent pas jouer au tac les joueurs, ce qu'a fait le Stade Toulousain, hein.
Bah oui, il y a eu
si on prend le nombre de matchs qu'ont fait les joueurs du Stade Toulousain, ils ont été plus souvent que d'habitude mis au repos.
Oui, non, ils ont Gomola l'avait dit.
Ça suffit.
On est le championnat qui termine le plus tard, je crois, pour cette Coupe du Monde, alors que c'est notre Coupe du Monde.
Oui, mais on est le championnat le plus attractif, on est le championnat le plus intéressant, le plus où tous les étrangers veulent venir maintenant. Donc alors c'est compliqué.
Oui. Mais... J'avais regardé une grosse partie du squad argentin avait arrêté en mi-mai.
Oui, effectivement.
Ce qui était dans les équipes qui perdaient.
C'est vrai qu'on a vu depuis un peu les dernières années la présence notamment de Didier Lacroix aussi dans les instances de la Ligue. On a vu quand même aussi un meilleur équilibrage des temps de jeu pour les joueurs du Stade Toulousain et d'autres, les joueurs internationaux. Et on sait que ça, on va dire qu'il y avait l'objectif de la Coupe du Monde 2023 qui était là, qui était en France. Est-ce que on va repartir? Est-ce que les managers des clubs professionnels qui ont des échéances, qui ont des objectifs, qui sont aussi sous la pression du résultat, est-ce qu'ils vont accepter aussi ces aménagements-là parce qu'il y a le 15 de France qui joue le tournoi des Six Nations, une tournée dans l'hémisphère sud. Eric, c'est un peu ça la question.
Autant pour une Coupe du Monde, on peut comprendre et on peut être sûr que les clubs feront les efforts, autant pour une tournée... au mois de juin ou juillet. Alors je crois que les tournées sont aussi un peu remises en cause. Il y a quand même pas mal un gros travail qui est fait à voir dans le bilan. En ce moment, ils essaient un peu de revoir un peu les calendriers, voir toutes ces tournées. Il est certain que là, l'effort sera moindre. Mais c'est le cas depuis un moment où déjà les tournées durent que 15 jours. Souvent, la moitié de l'équipe, quand il y a des phases finales, ceux qui partent en tournée, là, c'était le cas en Australie, et c'était où au Japon, il manquait quand même...
deux tiers de l'équipe type. Ce qui avait permis d'ailleurs à des joueurs d'éclore, le Jaminet, qu'on ne connaissait pas, qui était un pour des deux.
Tournée 2021 en Australie.
Il y a des efforts qui sont faits. Ils cherchent des solutions, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que le rugby est un sport qui use. Je pense qu'on a aussi eu un peu de malchance. Alors c'est vrai que quand on le met en face des statistiques de nombre de minutes jouées, bon, ça fait un peu mal. Et c'est vrai qu'on a perdu un peu trop de joueurs, nous, les Français, pour avoir encore plus de chances de finir en haut de l'affiche.
Les auditeurs ont la parole aussi dans Au cœur de la mêlée. Ils sont avec nous, bien sûr. C'est Thierry de Toulon, Pascal de Jacou, dans l'Hérault. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, on disserte un petit peu sur ce que va devenir le 15 de France, ou en tout cas, quel est votre état d'esprit, vous, à J+2, Thierry ?
Ben, tout simplement, alors bonsoir à l'équipe de consultants, Eric et Laurent Cardona, arbitre français bien connu. j'ai moi-même eu le plaisir de porter quelques ballons au même poste que Eric dans un petit club de l'Olympique du Laz de Toulon, à l'époque de Daniel Herrero. Et donc, je comprends comment ça se passe. C'est-à-dire, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à l'instant, sur le changement du calendrier possible ou pas pour diminuer le nombre de matchs. Aujourd'hui, le rugby, c'est un sport de valeur, c'est un sport de combat, c'est un sport où les jeunes issus des centres de formation ou des petits clubs ont envie de se retrouver. Que ce soit dans les tribunes ou que ce soit sur la pelouse, il y a la même ferveur. Je pense que plutôt que de diminuer des matchs, plutôt que de diminuer le calendrier, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat, faisons plutôt progresser ces jeunes, développons les centres de formation, donnons à tous ces minots, on va dire, on les appelle des minots, la possibilité d'aller sur les terrains et de rentrer dans de belles équipes. Voilà, je sais que les joueurs comme Eric le savent. Alors effectivement, vous disiez tout à l'heure, on va parvenir sur Ben O'Keefe, on va parvenir sur l'arbitrage vidéo, quelle que soit la nationalité des arbitres vidéo qui étaient au moment du match. On va parvenir sur Jasmine Colby. Vous voyez, je suis Toulonnais et les deux faits marquants du match sont deux ex-Toulonnais.
Eh oui.
Donc, là aussi, ça met quelque part un peu l'alarme à l'œil.
Surtout qu'ils n'ont pas fait avec vous, ça.
Voilà, exactement. Surtout qu'ils n'ont pas fait avec nous. On les a recrutés, on les a aimés, on les a applaudis, mais on a eu Jasmin Colby qui est resté quand même très longtemps arrêté sur le banc, blessé, et Tsebet qui n'a pas été à la hauteur de ce que j'ai vu pendant le match, et qui là était un très très bon joueur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Maintenant, on a eu de très très grands joueurs à Toulon et ça restera quand même des légendes. Voilà, c'était un petit peu, donc voilà, je ne vais pas revenir sur l'arbitrage. Il est ce qu'il est. Je pense qu'on aurait pu aller au bout. On aurait fait une très belle finale contre la Nouvelle-Zélande parce que je pense que ça aurait été ça. Et aujourd'hui, ben, le rugby doit rester quelque chose un engouement. Vous voyez, j'ai un petit-fils qui a 6 ans qui joue au rugby. J'ai mon fils qui a joué au rugby et qui a même fini dans une équipe canadienne du Québec pendant un moment. Voilà, c'est de père en fils. Et voilà, c'était un petit peu. Alors, c'est pas un coup de gueule, mais c'est quand même de la déception. Mais avant tout, ben, il faut aimer le rugby, continuer à le développer, surtout. Mais surtout, non, faut pas le calendrier, faut pas l'éliminer. Juste une dernière chose. Pour moi, les joueurs de rugby, 80 minutes, c'est terrible, c'est difficile. Je le sais. Les joueurs qui sont autour de vous le savent. Même un arbitre qui court pendant 80 minutes, ben, au bout, il est rincé. Il faut changer les joueurs à un moment donné, avoir suffisamment de réserves, un banc suffisamment étoffé pour pouvoir changer les joueurs. Le nombre de remplaçants pour moi en Coupe du Monde est insuffisant, il l'est aussi en championnat. ou en tournoi, que ce soit pour le tournoi destination qui arrive. Mais il faut pouvoir avoir plus de joueurs. Il y a un vivier qui existe, des garçons qui demandent que ça. Augmentons le nombre de remplaçants et surtout, Monsieur Galtier, ce petit message est pour vous. Faites-les rentrer, les laissez pas sur le banc. Quand vous avez un Dupont qui n'a pas joué pendant 3 semaines et qui se tape plus de 80 minutes, arrivé à la 60e, ce garçon, et je l'adore, il est rincé. Mmh. Et certains autres aussi, il est rincé. Vous avez un garçon comme Lucu qui est dans les tribunes et qui demande que ça d'aller jouer. Faites-le rentrer, il est bon. Il est très bon. Donc il fallait faire rentrer du 109. Les Sudaf ont fait rentrer 7 remplaçants, on en a fait rentrer 3. Alors qu'on a ce qu'il faut.
Pascal de Jacou, ouais. Est-ce que vous partagez le point de vue de Thierry de Toulon, là, qui pense que Dupont, par exemple, il fallait le faire sortir plutôt et faire rentrer Lucu. C'est une bonne remarque.
Ah oui, effectivement, peut-être ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus de coaching et de turnover sur le banc, parce que on a beaucoup de qualités, des joueurs quand même qui ont un certain niveau, qui sont montrés. On n'a pas démérité face aux champions du monde. Donc il y a peut-être un peu plus de coaching à faire, mais je pense qu'il faut continuer à développer le rugby, cet engouement-là. Moi, je suis croyant, mais pas pratiquant. Le rugby, hein, j'entends.
Oui.
Je trouve qu'ils ont fait une belle Coupe du Monde. Je trouve qu'ils ont fait des beaux matchs. Ils tiennent la dragée haute aux champions du monde. Ils n'ont pas à rougir. Moi, juste à l'entrée, je les ai trouvés peut-être un peu plus tendus que les Sudaf. Et je me suis dit, c'est pas gagné. Je l'ai trouvé un peu serré, quoi. Juste sur l'entrée sur le terrain. Mais bon, c'est des gaillards et on les reverra à très haut niveau très vite.
Ouais,
ils le font de toute façon.
C'est vrai, ils sont. Mais est-ce qu'on ne s'est pas, entre guillemets, projeté un peu trop vite, Thierry, sur les demi-finales parce que c'est vrai que les Sud-Africains, si on reprend historiquement les statistiques quand on les affronte, on ne les gagne pas souvent. Hein. On les avait battus l'an dernier à Marseille, mais il fallait remonter à 2009 pour les avoir battus. On les avait joués 6 ou 7 fois entre-temps. Hein. Donc, c'est toujours très dur. C'est un adversaire très dur. Et en plus, il était champion du monde en titre. Hein.
Ben c'est bien sûr, les Sudaf, c'est une magnifique équipe. Ce sont des joueurs exceptionnels. C'est des joueurs d'exception. De toute façon, toutes les équipes qui se sont présentées pendant cette Coupe du Monde, y compris les Portugais, que j'ai eu un grand plaisir à voir jouer, ce sont des joueurs, des garçons d'exception. C'était difficile de ne pas avoir de pression quand on rentre dans un quart de finale. Sur une Coupe du Monde, que ce soit à ce niveau-là d'une Coupe du Monde ou que ce soit un petit niveau, à partir du moment où vous attaquez un championnat, j'en sais quelque chose, vous avez toujours cette pression qui est différente des petits matchs, des challenges qu'on se donne entre joueurs. Quand vous rentrez dans une compétition, j'ai eu la chance de faire une finale de championnat du littoral, c'est en amateur. Et c'est la pression n'est pas du tout la même. Et vous êtes sur la réserve. On est sur la réserve. Effectivement, je suis d'accord avec Jacques. La France au début du match et encore, c'était à peine perceptible. Avait cette petite réserve par rapport aux Sudaf qui nous sont rentrés dedans direct. Mais on a su répondre au coup par coup. On a su à chaque fois qu'on a pris un coup aller en mettre un. C'était un ping-pong rugby magnifique. Mais oui, effectivement, toutes les équipes, c'est de très très belles équipes. Les Sudaf, c'est les champions du monde en titre. On n'est pas arrivé contre n'importe qui. On a joué les Blacks en match d'ouverture. C'est une équipe magnifique. Même si, sur la dernière année, ils ont été dans la retenue. Ils ont eu des problèmes d'équipe. Ils ont eu des problèmes de coaching, des problèmes de direction, de staff, etc. Mais ils viennent de nous montrer, ils viennent de nous prouver, et ils vont encore le prouver dans les semaines à venir, que c'est encore une très, que c'est une très très grande équipe, que c'est une équipe leader, comme la Suède et l'Afrique du Sud.
Vous voyez Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud en finale ?
Ah oui.
Bah oui, forcément. Moi, vous avez une équipe anglaise. Vous avez une équipe anglaise qui, enfin, je vais dire ce que je pense. Les Fidji, pour moi, sont une très belle équipe. Les Flying Fiji sont une très belle équipe. Et ils ont en test match battu les Anglais. Ils ont en Coupe du Monde perdu de très peu, je crois, de 6 ou 7 points contre l'Angleterre. Avec des joueurs qui ont eu des problèmes familiaux. On a eu la chance d'avoir Tuisova à Toulon. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle de grands joueurs, que ce soit d'une équipe sud-africaine, fidjienne, anglaise, etc., on parle de Toulonnais.
C'est bizarre.
On voit dans les tribunes.
C'est dommage qu'on ait pas plus de Français, quand même.
Voilà. C'est très bien. Exactement. Mais oui, effectivement, je vois les Blacks en finale contre l'Afrique du Sud. Oui, tout à fait.
Thierry, Pascal, merci d'avoir été avec nous. On va bien sûr vous inviter au tirage au sort d'un grand jeu Sud Radio là, avec Rod & Gun. C'est pour un bon d'achat de 300 euros. Et ça sera tiré vendredi. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour participer. Voilà, et votre participation ce soir eh bien, vous permet tout de suite de participer à ce tirage au sort. Voilà, c'est dans les mains de Aude qui est avec nous au standard ce soir. Juste pour terminer, Eric Bonneval, pronostic final. Oui. Laurent Cardona, pronostic final.
Pronostic final, ben, Nouvelle-Zélande en Afrique du Sud.
Ouais, mais tu sais qu'il y a des demi-finales avant. Hein. Il y a Nouvelle-Zélande, Argentine.
Non, mais c'est Riri, Fifi, Loulou, là. Non, là, ils vont prendre.
Et les Argentins, points. Ils ont battu deux fois les Néo-Zélandais en 4 ans.
30 points.
Ouais, 30 points, d'accord.
On
en okay. Laurent.
30 points, Nico. Ouais. Non, mais on peut pas. Faut pas dire autre chose que ce que vient de dire Eric. Il y a deux compétitions dans la même compétition. Il y a notre tableau et celui d'en face.
Tu veux dire qu'il y a le top 14 et la Pro D2 à l'intérieur des phases finales.
Donc les Anglais vont se faire raser la moustache et les Argentins, et malheureusement, ils vont pas trop exister contre les Néo-Z.
Voilà.
Parce que là, on est en compétition officielle et ils rigolent pas, quoi, les deux. Hein, et on l'a vu pendant les quarts de finale.
Bon, ok. Eh ben, c'est clair et net.
On prend rendez-vous, François.
Allez, on prend rendez-vous, mais justement, on prend rendez-vous parce qu'on se retrouve après la pause. On a débordé. Maxime, on a les gros yeux, tout ça. On se retrouve dans un instant avec les légendes de la Coupe du Monde et également le Qui je suis sur Sud Radio. Merci.
Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présentes.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot.
Avec vous les auditeurs, Sud Radio 0826 300 300, le Qui je suis dans un instant pour gagner le ballon Sud Radio Gilbert, voilà, le Qui je suis, le jeu que vous connaissez. Et puis les légendes, il y a celles qui sont avec nous, comme Eric Bonneval bien sûr, puis il y a celles dont on parle tout de suite avec Paul Perrier.
Sud Radio, au cœur de la mêlée.
Lowe steps outside, still not down, he's over, Lowe. This is the one. It's coming back for Johnny Wilkinson. He drops for World Cup glory. Yes! It's over. He's done it. Johnny Wilkinson.
Il est l'auteur du livre Les 300 meilleurs joueurs de l'histoire. Voilà, on lui a pas dicté les noms dans ce livre. Paul Perrier, bonsoir. Et donc ce soir, vous allez quand même donner sa chance à un Argentin, parce que Eric et Laurent donnent pas beaucoup de chance aux Argentins pour ce week-end. Donc vous voulez parler de qui? De Augustine Crivi, je crois.
Augustine Crivi, ouais, je sais pas si je vais lui donner sa chance pour le match de samedi, mais en tout cas, je vais revenir sur sa carrière parce que c'est un joueur qui a beaucoup compté pour les Pumas. C'est déjà le premier Argentin à devenir centurion, donc accumulé plus de 100 sélections. Il a été rejoint depuis par Nicolas Sanchez, mais ça prouve quand même la longévité de ce joueur qui a atteint donc ce chiffre à 38 ans juste avant la Coupe du Monde. Il est aujourd'hui remplaçant de Julian Montoya, mais ça a été longtemps la pierre angulaire du pack argentin. Un formidable leader, un vrai joueur de combat qui est passé par la France, par Biarritz, Clermont et Montpellier notamment, qui a évolué aussi en Angleterre et dans la franchise des Jaguares en Argentine. Il a donc participé aussi au renouveau du rugby dans son pays natal, même si l'initiative a pris un petit coup dans l'aile avec le Covid, malheureusement. Et c'est un joueur voilà qui m'a marqué parce que il faisait preuve d'une grosse activité sur le terrain. Il est aujourd'hui moins actif avec l'âge, mais voilà, c'est un joueur qui est très solide du haut du corps, qui est très présent dans les rucks, qui maîtrise parfaitement les fondamentaux du poste de talonneur. Et comme il était formé comme flanqueur, il a aussi été particulièrement mobile et il a un peu incarné l'évolution du poste de talonneur qu'on voit aujourd'hui avec des talonneurs mobiles comme on a vu Movaka l'autre jour, quoi.
Voilà, il fait une bonne Coupe du Monde, Eric Bonneval, pour vous, Augustine Crivi. Est-ce qu'il fera un très grand match face aux All Blacks?
Quand il rentre, il fait ce qu'on attend de lui. Hein. C'est un vrai combattant dans les zones de ruck, c'est impénible. Alors, il est peut-être un peu moins mobile. Même si c'est vrai, quand il est. C'est un joueur qui était capable d'aller chercher des intervalles et d'essayer de faire jouer derrière, en plus.
Mais il a une formation de troisième ligne, quand même.
Ouais, voilà, donc ça se sentait dans ses déplacements. Bon, là je fais l'effet aussi, là, hein, ça commence à peser.
Et vous savez de quoi vous parlez. Hein.
Ah ouais, non, mais moi je suis sûr que je pourrais plus prendre un intervalle, hein, là, je suis tranquille. Non. Je te remercie, François. il fera, je suis sûr qu'il donnera 400% de ce qu'il a encore dans le moteur pour. Quand il rentrera contre les Blacks, ça, on peut en être sûr. Hein.
Mais il en prendra 30.
Argentine.
Mais il en prendra 30.
Je suis pas sûr que ça suffise.
Bon, merci Paul Perrier d'avoir été avec nous. Bien sûr, les 300 meilleurs joueurs de l'histoire, c'est votre livre. Et on vous retrouve régulièrement chaque semaine dans Au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, c'est aussi, en fin d'émission, le jeu que l'on connaît tous. C'est le Qui je suis.
Sud Radio, au cœur de la mêlée.
Allô ? Puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis ? C'est moi ! C'est moi ! Je suis un monsieur ! Ça, c'est se présenter !
Voilà, et on ne le présente plus, Lucien Gaspara, qui est là.
Jean-Pierre Foucault.
Eh oui.
Oui, on ne présente plus le qui je suis également, François, le jeu que tout le monde nous envie sur Sud Radio, le jeu pour remporter un ballon officiel Gilbert Sud Radio. Et deux courageux aujourd'hui ont appelé le 0826-300-300, c'est Arnaud de Bordeaux. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir François, bonsoir Lucien.
Bonsoir Arnaud.
Et Christophe de Paris, bonsoir Christophe.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir.
Messieurs, est-ce que vous êtes prêts?
Il est fair play, Christophe. Il dit bonsoir Arnaud, t'as vu?
Oui.
Il est fair play. Ouais. Ah ouais, ça peut déjà ça peut rapporter un point de bonus.
Je vais dire un truc à Arnaud, c'est que de toute façon, et si jamais je perds, ce que je ne souhaite pas, j'ai déjà un ballon aux couleurs Eden Park, donc ce sera un plaisir qu'il le gagne.
Ah ben là, c'est. Allez,
on y va, on est parti.
C'est un magasin Décathlon que vous allez avoir chez vous. En tout cas, Arnaud de Bordeaux, le 21e arrondissement de Paris, contre Christophe de Paris.
Hop, je suis bordelais, c'est absolument pas l'intérieur.
Là, ça crie dans mes oreilles du côté de Maxime. On y va, messieurs, je vais vous donner des indices. Et le premier à trouver le joueur a la bonne réponse. Et il faut absolument que vous me donniez votre prénom pour remporter le point. Est-ce que vous êtes prêts?
Prêt.
Top. Je suis un ancien international français né à Dax en 1973. Je jouais talonneur et je lançais le ballon à une main. C'était ma marque de fabrique. Je commence ma carrière à l'US Dax que je quitte en 1998. Je vais ensuite à Perpignan puis au Castres Olympique. Je rejoins le club des Saracens avant de terminer ma carrière au London Wasps.
Arnaud Ibanez.
Et c'est un point pour Arnaud. Bravo. Raphaël Ibanez, qui est aussi le manager de l'équipe de France, qui épaule Fabien Galthié. Nous y allons pour le deuxième point qui peut déjà être décisif. Mon nom de famille est le même que l'inventeur du communisme. Mon prénom rappelle une série téléfiction sur une famille américaine. Je suis talonneur comme Raphaël Ibanez. J'ai quitté prématurément ce mondial sur blessure, ce qui a permis le retour d'André Pollard. Malheureusement pour nous, Français, j'étais remplaçant lors de la finale 2019 de la Coupe du Monde. Je suis le remplaçant de Bongi Mbonambi. J'ai joué au Japon. Du coup, mon prénom, c'est Malcolm. Je suis intervenant.
Christophe Marx.
C'est ça, un point pour Christophe.
L'égalisation
de Christophe. On y voit, là, on me dit, ça va aller très très vite là.
C'est le point décisif là.
C'est le point décisif là. Stop. Je suis né dans la Drôme en 1977. Je suis devenu célèbre grâce à une tournée d'été en 2007 en Nouvelle-Zélande où j'ai fracassé la mâchoire de Jerry Collins.
Chabal.
Chabal, c'est gagné pour Arnaud.
Belle transformation en tout cas. Hein. Oui. Belle transformation.
Bravo Arnaud pour cette victoire.
Eh ben merci.
On clôture le jeu.
Bravo,
on n'a pas le temps de faire jouer Eric. Du coup, comme...
Eric, une petite question, peut-être un petit qui je suis de bonus en 30 secondes avec Laurent. Peut-être une petite, un petit bras de fer. Allez,
c'est parti. Je suis un pilier droit français célèbre qui a joué au Stade français, mais je suis d'origine sud-africaine. J'ai récemment... c'est entre Laurent et Eric là, mais tout le monde...
Peter de Villiers.
Pilier un point, c'est Laurent Cardona qui remporte ce soir le jeu des animateurs du qui je suis, effectivement, Peter de Villiers. Mais c'est donc bien Arnaud qui remporte le ballon estampillé sur Radio. Bravo Arnaud et bravo à Christophe. N'hésitez pas à nous rappeler au 0826 300 300.
Super, merci les auditeurs Sud Radio, bien sûr. Merci toute l'équipe, Eric Bonneval, Laurent Cardona pour ces échanges passionnés, passionnants. Excellente soirée, les clés d'une vie à suivre avec Jacques Pessy, bien sûr. Et puis on se retrouve demain à 20h au cœur de la mêlée. Bonne soirée à vous.
Sud Radio, au cœur de la mêlée.
Avec Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services.